Donc pour commencer, pour introduire un peu mon propos, avant d'aller s'enfoncer dans le département de l'Ain, j'irai une citation qui pour moi est au cœur de ma réflexion. J'irai, c'est une citation de Pierre Maclouf d'un ouvrage de 1984 qui est sorti du colloque sur la pauvreté dans le monde rural. C'est un colloque qui avait été organisé par l'Association des ruralistes français à Toulouse en 82. Donc l'Association des ruralistes français très interdisciplinaire, hein, histoire, socio, géo, ethno, anthropo, économie, et qui est, je dirais, un des derniers et seuls colloques, je dirais, de... Alors je regarde pas les historiens quand je dis ça, parce que eux, il y a toujours eu des choses, mais quand dans l'actualité, je dirais, il s'est pas refait de gros colloques sur la pauvreté en milieu rural depuis 84. Et cette citation donc de Pierre Maclouf, sociologue, montre toute la difficulté et l'enjeu et le défi de travailler sur la pauvreté dans le monde rural, puisque ça associe deux termes que lui qualifie au statut conceptuel aussi incertain, l'un que l'autre, la pauvreté d'un côté et le rural de l'autre. Donc c'est assez excitant d'aller essayer d'articuler ces deux termes au statut conceptuel incertain, et ça pose des questions de terminologie, de définition assez intéressantes. Alors, juste pour vous donner un peu la définition sur laquelle moi je m'appuie quand je parle de pauvreté, vous verrez que je vais plus vous parler de pauvreté que de précarité, on pourra y revenir après. Dans mon vocabulaire, je n'utilise jamais l'exclusion, très peu. J'ai beaucoup de mal avec l'exclusion. Mais pauvreté, précarité, ça va. Donc, pourquoi j'utilise le terme de pauvreté ? Parce qu'en fait, je m'appuie sur cette définition qui est une définition de la Commission européenne, qui part du fait qu'une personne est considérée comme vivant dans la pauvreté si son revenu, bon, je vais pas lire, son revenu et ses ressources sont insuffisants. Donc, une entrée par la pauvreté monétaire, qui est une des définitions de la pauvreté, mais qui n'est pas la seule. On ne peut pas réduire la pauvreté à la pauvreté monétaire, mais on ne peut pas non plus ne pas la prendre en compte. Donc, des éléments aussi, bien sûr, de la pauvreté comme construction sociale, j'y reviendrai pas, beaucoup de sociologues travaillent sur la question « on est pauvre dans la société dans laquelle on vit ». Mais aussi, donc, en raison de la pauvreté, cette personne peut se trouver, alors ça c'est les termes européens, je ne vais pas les analyser, défavorisée par de multiples manières, et c'est là où on voit tout l'aspect global et transversal de la pauvreté, des difficultés d'accès à l'emploi, l'inconfort du logement, des difficultés soins de santé, donc des difficultés d'accès qu'on va revoir notamment dans la loi de 98, hein, sur la loi française contre l'exclusion. La culture, le sport, les loisirs, donc vraiment une approche globale et transversale. Donc moi, quand je dis pauvreté, c'est pas uniquement la pauvreté économique. Faut pas réduire mes propos à ça. C'est vraiment autour de cette définition assez systémique. Et s'ajoutent dans cette définition des éléments. Donc cette personne est souvent marginalisée et exclue de la participation aux activités qui sont la norme pour les autres personnes et son accès aux droits fondamentaux. Voilà. 2004, Commission européenne. En plus, c'est intéressant de travailler à l'échelle européenne parce que c'est un des enjeux, hein, la cohésion sociale au niveau européen. Alors, pour vous donner quelques éléments aussi un peu généraux, mais plus de mes questionnements sur pauvreté et espace rural, pourquoi ça me semble intéressant de travailler la question, c'est tout d'abord que, comme c'est dit par Pierre Maclouf, on est encore largement dans une pauvreté qui avance masquée. Alors, j'irai de moins en moins sur les dernières années, mais quand même par rapport à la pauvreté et la précarité urbaine, on est largement en deçà. Alors, pourquoi est-ce que cette pauvreté rurale est masquée ? C'est parce qu'elle, tout simplement, de façon évidente, elle est moins importante qu'en ville. Statistiquement, il y a moins de pauvres dans les espaces ruraux qu'il n'y en a en ville. Mais il y a aussi moins d'habitants dans les espaces ruraux qu'il y en a dans les villes, d'une part. D'autre part, elle prend des formes géographiques, enfin des formes spatiales différentes, c'est-à-dire qu'on a moins d'effets de concentration, elle est beaucoup plus diffuse. à la campagne qu'elle n'est concentrée en ville, notamment. Mais ça, c'est pour un géographe des éléments, des faits de structure de l'espace rural, la diffusion, l'isolement. Elle est masquée parce que moins dite par les personnes en situation de pauvreté, moins dite par les acteurs qui soit refusent de la dire, soit considèrent que les gens ne sont pas pauvres. Un exemple, quand vous faites des enquêtes en milieu rural, c'est aussi un fait de génération avec certains élus. Je vous montrerai des éléments d'enquête par questionnaire qu'on a fait avec les élus de l'Ain. Pour eux, il n'y a pas de pauvres sur leur commune parce que de toute façon, on se débrouille toujours. Voilà. En référence à l'image du pauvre urbain, du précaire, du SDF, on arrive toujours à se débrouiller à la campagne. Voilà. Ça évolue un peu au niveau des élus. Il y a notamment, des effets de génération qui sont importants. Et moins dites aussi parce que moins dites dans les médias. J'ai pas fait le comptage des articles référençant les voitures brûlées encore jusqu'à il y a pas longtemps dans le centre-ville de Lyon. Mais l'association entre violence urbaine, pauvreté urbaine, précarité urbaine, il y a beaucoup plus d'articles sur les voitures brûlées en ville qu'il n'y en a à la campagne. Donc je dirais, pour provoquer un peu, moins dites dans les médias, c'est pas encore un enjeu politique majeur que la pauvreté dans les espaces ruraux. Et c'est peu étudié par la recherche, c'est peu étudié en sciences sociales aussi. Bon, je vous donne quelques éléments pour après vous présenter des résultats sur l'un. Je pense aussi que la pauvreté est masquée parce que quand on regarde un peu ce qui s'est écrit, on va dire, sur les 20 dernières années en Europe occidentale, c'est assez partagé, c'est vraiment un paradigme dominant. On est quand même face à un espace rural largement, alors j'ai mis survalorisé, dans une construction positive de l'espace rural par les fonctions résidentielles, les fonctions récréatives, les fonctions environnementales. Il y a des champs de la géographie ou des études rurales, on va dire, qui sont beaucoup moins importants qu'ils ne l'étaient à d'autres moments, notamment l'emploi en milieu rural. Alors la géographie de l'emploi, déjà, c'est le désert, mais alors la géographie de l'emploi en milieu rural, c'est les steppes de l'Asie centrale. Voilà. Donc les fonctions économiques, les fonctions industrielles, et on insiste beaucoup plus, par exemple, on sait qu'il y a des mobilités vers les espaces ruraux, par les fonctions résidentielles, mais sans aller étudier véritablement la composition des populations qui viennent s'installer en milieu rural. Donc, dernier élément dont j'ai déjà parlé, elle fait moins l'objet d'études et d'attention politique, avec quand même une évolution. Il y a un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui est sorti l'an dernier sur pauvreté, précarité, isolement dans les espaces ruraux, qui avait été commandité par par le ministre Barnier au moment de la réforme du RSA. Oui, s'était rendu compte qu'en fait, avec le RSA activité, c'est parti de là le rapport public, qu'avec la mise en place du RSA activité, il y avait un nombre très important d'exploitants agricoles et de salariés, mais essentiellement d'exploitants, qui pouvaient prétendre au RSA activité. Donc il a demandé au départ une étude au Conseil général de l'alimentation et des espaces ruraux, lequel a dit « nous on fait avec les gens des affaires sociales ». Donc ils ont conduit une étude, elle est sur le site de la documentation française, c'est une étude très intéressante avec les moyens qu'ils ont aussi pour faire des tables rondes. Moi, je suis allée les rencontrer. Enfin, ils m'ont très gentiment reçu, les inspecteurs, pour un peu avoir le détail de leur rapport. Et quand je leur ai demandé quel est le résultat de ce rapport, ils ont dit, ils ont reçu. Alors, ils m'ont même montré une très jolie lettre de deux lignes de Michel Mercier. On était en pleines assises des territoires ruraux à l'époque, en disant, est-ce que ça portait ses fruits? Moi, je le vois pas comme enjeu dans les assises des territoires ruraux, les enjeux de cohésion sociale, de vivre ensemble, et encore moins de pauvreté, de précarité. Et en fait, le ministre Mercier accusait réception de l'étude, point barre. Voilà. Donc c'est aussi des éléments de déclenchement, enfin des éléments importants. Donc il n'y a pas encore eu de passage, mais ça prend du temps, mais il y a quand même une évolution. Il y a le Secours populaire qui avait fait il y a quelques années son colloque sur la question de la pauvreté en milieu rural. Donc c'est un chemin qui prend du temps, mais qui émerge un peu. Alors, autre élément important, je vais vous en montrer des éléments pour l'un, c'est que finalement, travailler sur la pauvreté dans les espaces ruraux peut être considéré comme un prétexte. J'aurais pu travailler sur un autre sujet, un autre objet, et je travaille sur la pauvreté dans les espaces ruraux pour finalement travailler sur les recompositions des espaces et des sociétés rurales. Alors, ça m'intéresse aussi de travailler sur la question de la pauvreté, mais c'est un filtre d'analyse pour étudier les recompositions des populations dans l'espace rural. Voilà. Avec des profils de pauvreté et de précarité qui se complexifient. Il y a encore, à la campagne, des veuves d'agriculteurs qui n'ont jamais cotisé, qui sont au minimum vieillesse. Mais pour le département de l'Ain, en 10 ans, leur chiffre a été divisé par 3. C'est à peu près, on va dire, la moyenne nationale. Hein, du fait qu'elles sont mieux couvertes, que les nouvelles, je dirais, nouvelles femmes d'agriculteurs ou veuves d'agriculteurs sont mieux couvertes que ne l'étaient leurs mères. Et d'autre part, parce que celles qui étaient peu couvertes, qui sont minimum vieillesse, bah, même si y a un allongement de la vie, à un moment, décèdent. Donc, de fait, statistiquement, on est mieux couvert. Par contre, on se rend compte que arrive, je dirais, dans le paysage socio-démographique de la pauvreté-précarité, des personnes venues de la ville, des familles monoparentales, on va en voir par exemple, donc des femmes seules, parce que famille monoparentale, ça veut dire femme seule avec enfant, voilà, par exemple, mais aussi des couples de travailleurs pauvres, des travailleurs de l'industrie, des ruraux autochtones, les gens, les jeunes de Nicolas Renaï, par exemple, hein, sur la France des petits moyens. Voilà. Donc on a vraiment une complexification et ça permet, enfin moi je trouve que c'est très intéressant de regarder les recompositions rurales par ce filtre-là. Voilà. Donc j'ai un peu des œillères, hein, moi quand je suis à la campagne, je regarde les pauvres. Et c'est surtout quand on est en HDR, on est un peu monomaniaque. Je sais très bien qu'il n'y a pas que des pauvres à la campagne, voilà, soyons clairs. Et ça ouvre aussi la question, là je ne l'aborderai pas, au-delà de la pauvreté et de la précarité, des inégalités. Ce qui est à la limite, même parfois tout autant, si ce n'est plus intéressant, c'est la question des inégalités dans le vivre ensemble des petites communautés rurales et de la question de la mesure des inégalités dans des espaces de faibles effectifs. Et puis pour finir, pour vous montrer un peu, voilà, pour vous aussi vous situer ce sur quoi je travaille, une question intéressante, puisque la géographie, c'est quand même quelque part une science de l'action aussi, c'est de voir un peu dans ces espaces de moindre densité, voire de faible densité, quelles politiques publiques on peut mettre en place dans ces espaces pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Sachant qu'on n'a pas la politique de la ville en milieu rural, et c'est tant mieux, quelque part. Mais en même temps, c'est plus compliqué, parce qu'on n'a pas de zonage prioritaire, que les populations sont éclatées, et que se posent des questions aussi, quand on veut monter des actions collectives, par exemple, d'accompagnement social, des questions basiques, de distance, de mobilité des personnes. Quand une assistante sociale fait ses tournées, qu'elle soit de la MSA, du Conseil général, ou quand une salariée de l'ADMR va faire le suivi des populations âgées, eh ben, elle voit moins de gens que n'en voit une assistante sociale en milieu urbain, par exemple. Et ça, c'est pas pris en compte dans les comptages de l'évaluation. Et Dieu sait si maintenant les techniciens de l'accompagnement social sont soumis à des évaluations importantes. Il y a moins, je dirais, il y a moins de tout en espace rural. Il y a moins de structures d'encadrement. Il y a moins de structures d'insertion. Et par contre, les populations sont plus éclatées. Et ça pose des vraies questions et des défis aussi et des choses assez intéressantes. C'est que finalement, on se rend compte que quand on va faire des enquêtes en milieu rural, et ben les acteurs ruraux, ils bricolent. Il y a les textes, il y a la loi, il y a les obligations des minima sociaux. Et il y a aussi, je ne dis pas que ça n'existe pas en ville, je connais moins, mais du bricolage qui est lié finalement, qui permet de relire tous les travaux sur le développement social local des années 70. Là, ce sont des données de 2004. On est en 2010, bientôt 2011. C'est les dernières données qu'on ait. Alors, pas de la Direction générale des impôts, puisque là, en fait, c'est les données des taux de pauvreté. Le taux de pauvreté, c'est le seuil de pauvreté, pardon. C'est 60% du revenu médian national. Donc, grosso modo, c'est 970 euros par mois et par personne, pour une personne seule. Dernier chiffre connu, 2007. En fait, là, c'est les données de 2004, parce que c'est les dernières données qui ont été ventilées par l'INSEE entre population totale, espace à dominante urbaine, espace à dominante rurale. Nous, les chercheurs, on ne peut pas faire ça, parce que pour faire ça, il faudrait avoir les données à l'échelle des, au niveau des communes. Et on tombe autour, on tombe, enfin on a le secret statistique pour les communes. Donc là, c'était des données qui avaient été faites par l'INSEE dans le cadre de ce rapport justement de l'IGAS. Il leur avait fait pour les personnes de l'IGAS le calcul. Ce dont on se rend compte, bah, c'est que finalement vous avez donc la pauvreté totale, population totale à gauche, au milieu population urbaine et à droite la population rurale. Donc, ce qu'on voit, c'est d'une part que la fourchette, en fait, statistique est plus importante pour les espaces ruraux. Hein. On va de 7,1 jusqu'à 21, le maximum jusqu'à 21,6. Ce qu'on voit également, c'est que on a une extension spatiale. J'ai repris, c'est la même discrétisation à chaque fois des classes, vous voyez, de 10, 12, 15 et 21,6, 12 étant grosso modo la moyenne nationale, 11,7. On a une extension spatiale plus importante de la pauvreté rurale qu'on l'a pour la pauvreté urbaine, avec un gros massif central, et puis aussi, plus qu'un massif central, des zones qui sont particulièrement touchées en rural comme en urbain, notamment le nord de la France. Il y a 10 ans, j'étais venue vous parler de cette zone-là, et puis aussi tout le littoral méditerranéen. Voilà. Mais ce sont des cartes de contexte. Autre élément, autre carte qu'on peut trouver, où là on a des données un peu plus récentes, parce que ce sont les données en fait de la Direction générale des collectivités locales sur les finances des départements, qui sortent chaque année de façon assez précise. Donc là c'était une carte de 2007, ça a peu évolué. On n'a pas, ça c'est un peu, ils donnent depuis la réforme du RSA, enfin du passage du RMI au RSA. Ils ont un peu du mal à fournir des données statistiques parce que c'est politiquement chaud, on va dire. Mais là, en fait, c'est les charges nettes d'aide sociale, tout confondu, toute l'aide sociale, y compris l'aide aux familles. Donc, c'est vraiment le plus général. Les dépenses de RMI sur la carte du milieu et les dépenses de l'allocation personnalisée d'autonomie, où on a en fait deux types de publics pauvres. J'irai, et on voit que finalement, si on regarde, je ne vais pas faire l'analyse de cette carte dans le détail, on a des départements, donc sur l'allocation personnalisée d'autonomie, donc une image du rural vieillissant, je dirais, hein, ça c'est clair et net, des départements aussi donc comme la Nièvre, des zones des Pyrénées qu'on a pu avoir l'occasion de visiter éventuellement dans le cadre des commissions de jura rural, comme l'Ariège, hein, donc des lieux de concentration de pauvreté, voilà, des hauts lieux de pauvreté rurale, je dirais. Mais on se rend compte aussi que finalement sur le RMI, qui est, je dirais, une prestation plus urbaine, enfin plus générale et peut-être moins marquée spatialement, eh bien on a aussi des espaces, hein, qui se retrouvent, donc ces espaces ruraux du nord de la France, mais aussi, vous voyez, hein, on est dans la deuxième tranche, un marquage assez important des espaces ruraux français. Je m'étends pas, sachant que moi, ça me permettra d'articuler sur l'Ain. J'ai travaillé sur un département riche, peu marqué par la pauvreté, hein, vous voyez, l'Ain, on est ici, voilà, c'est ce département, là il y a le Rhône, là c'est l'Ain, on est à chaque fois dans les tranches et des dépenses et des taux de pauvreté les plus bas dans la France. Et c'était intéressant d'aller travailler sur la pauvreté dans un département riche. Alors, j'introduis donc sur le contexte de l'étude. Donc en fait, c'est une opportunité qui m'a été donnée en fait de travailler avec une association qui s'appelle Alpha 3A, qui est en fait une association qui est un bailleur social, qui historiquement s'est montée dans les années à la fin des années 60, début 70, pour s'occuper, pour gérer un parc immobilier de travailleurs migrants au départ, et qui peu à peu a évolué pour accueillir des populations dans le cadre de différentes structures d'hébergement à vocation sociale avec de l'accompagnement social qui va avec. Alors pourquoi est-ce que c'est eux qui ont commandité l'étude ? Je pense que c'est parce que c'est une association qui a la trésorerie qui permet... c'est pas le conseil général qui a commandité l'étude, c'est pas la préfecture, enfin, c'est pas la direction départementale de la cohésion sociale. Ils y avaient un intérêt pour montrer qu'ils étaient présents sur le département, et ils avaient aussi la trésorerie, je dirais, pour le faire, et une reconnaissance tacite de l'ensemble des autres élus, des autres acteurs, pardon. Avec tout de suite la mise en place d'un comité de pilotage, donc qui a fonctionné tout le long de l'étude, on s'est vu tous les mois, plus des contacts que moi j'ai eu avec les différents membres, donc la caisse d'allocation familiale, la MSA, la caisse primaire d'assurance maladie, le conseil général, donc la direction solidarité, qui s'occupe notamment de l'insertion, la direction départementale de la cohésion sociale, ça c'est l'État, et le réseau Alerte, en fait c'est un réseau d'associations qui regroupe notamment le Secours catholique, la Banque alimentaire, ATD Carmonde, enfin tout un ensemble d'associations. Voilà. Alors les objectifs de l'étude étaient d'approfondir la connaissance de la réalité, alors ça c'est, je reprends les termes hein, du cahier des charges, approfondir la connaissance de la réalité de la pauvreté dans le département. Moi, j'ai dit tout de suite que j'étais géographe. Donc, ce qui m'intéressait aussi pour faire un état des lieux, c'est de le faire par une représentation cartographique. D'où, dès le départ, avec une demande auprès de la CAF pour être assurée de pouvoir avoir accès à des données. Et pour le commanditaire, la réalité de la pauvreté, c'était de passer justement par ces cartes. Le fait d'établir des cartes donnait une image de la réalité de la pauvreté. Sensibiliser les acteurs aux enjeux socio-territoriaux de la pauvreté, c'est-à-dire, en fait, pour la première fois dans ce département, c'était l'occasion d'établir des images sur l'ensemble du département. Sachant que c'est un département assez riche, qui ne s'était pas posé la question de la pauvreté et qui s'est pris très brutalement, qui a vécu très brutalement et avec beaucoup de souffrance la crise économique de 2008, qu'il a vécu brutalement parce qu'ils se sont rendus compte que finalement ils n'étaient pas aussi protégés que ça. L'intérim a chuté de façon très importante, donc ils ont ressenti leur vulnérabilité. Et c'est vrai que moi, j'ai entendu pendant toute l'année, de la part de... Enfin, les 6 mois que j'ai passés, que ce soit les gens de la CAF, de la MSA, donc les acteurs au niveau du département ou des acteurs locaux, vraiment, la brutalité du choc de la fin des contrats d'intérim, notamment, et de l'arrivée, je dirais, dans la visibilité de la société, enfin, du département de l'Ain ou de Bourg-en-Bresse, l'arrivée des travailleurs pauvres. On a des travailleurs pauvres. Alors qu'ils existaient déjà, hein. Mais on les voit, on n'en avait pas conscience, on ne les voyait pas. Donc sensibiliser les acteurs à l'échelle du département et fournir des outils d'aide à la décision, sachant que fournir des outils d'aide à la décision, c'était aussi par le biais des cartes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une étude en disant « faudrait faire ceci, faudrait faire cela », que la carte soit aussi un outil d'aide à la décision à l'échelle de l'ensemble du département. Donc le programme du travail, ça a été un diagnostic socio-territorial, c'est ce que je vais vous présenter. Une enquête par questionnaire auprès des maires du département, ça c'est la deuxième partie, je vous en présenterai quelques éléments qui montrent un peu comment les maires des petites communes, des communes rurales, se positionnent par rapport à la pauvreté et la précarité, ce qu'on a pu recueillir de cette enquête par questionnaire. Et le dernier temps, donc c'est jeudi prochain, une rencontre finale. Alors Interaction, en fait, c'est un réseau avec un magazine qui paraît tous les 3 mois, qui présente beaucoup, plein d'expériences des acteurs de l'accompagnement social et qui est une mine d'informations. Donc, présentation d'une carte du relief. Alors, on va pas bien le relief, grosso modo. Alors, vous avez, bon, on est dans un département moyen, vous voyez, 574 000 habitants, avec quand même une croissance démographique importante. Cette croissance démographique, elle est surtout le fait du sud-ouest du département, puisqu'ici on a l'agglomération lyonnaise, hein, donc un effet de desserrement périurbain. Bourg-en-Bresse, une ville moyenne, ils n'aiment pas quand on dit ça, mais c'est le cas, 40 000 habitants, hein, donc on est dans un département majoritairement rural, dominé par une ville moyenne. Mais même petite ville, ils n'aiment pas, après, je me suis rendu compte. Donc, Et ensuite, vous voyez, une densité, on est, voilà, c'est un profil moyen, densité moyenne, un peu en deçà de la densité française et largement en dessous de la densité rhône-alpine, donc 136 habitants, je ne détaille pas tous les chiffres. Une concentration urbaine limitée, puisque les 10 communes les plus peuplées que vous avez sur le tableau ici, donc ça donne une idée de la hiérarchie urbaine, regroupent un quart, un peu moins d'un quart de la population. Par contre, on a 63% de communes qui ont moins de 1000 habitants, représentant un cinquième de la population du département. Donc, et la majorité de la population vit dans des communes de moins de 3000 habitants. Donc un département, moi je dirais globalement rural, avec au niveau de la topographie, hein, une coupure est-ouest, puisqu'ici en fait on a toute la zone de la plaine, plaine de la Saône, plaine de l'Ain, et puis la moitié est, où là on est sur les contreforts du Jura, avec toute la zone du Bugey et le pays de Gex en position frontalière avec Genève. Voilà. Donc là, une carte au niveau du canton, donc de la population. Donc je vous ai dit Bourg-en-Bresse, principale agglomération, donc 40 000 habitants pour la population municipale, 70 000 pour l'agglomération, et ensuite Oyonnax, donc le bassin industriel d'Oyonnax, et sur le pays de Gex, ben, Gex, Ferney-Voltaire, et on a aussi, ben là, enfin c'est plus sur la carte, mais en fait c'est ce canton-là, dans les villes importantes, Ambérieu-en-Bugey. Voilà. Donc Oyonnax, Nantua, Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, et Ferney-Voltaire, Gex, ici. Alors, au niveau aussi d'un peu des données de cadrage. Donc vous voyez, sur là c'est la carte du zonage en aire urbaine pour l'ensemble de Rhône-Alpes, donc avec la très forte influence, hein, de l'agglomération lyonnaise sur la plaine de l'Ain, puisqu'on a ici le pôle urbain de Lyon qui occupe tout le quart sud-ouest du département, et la dissymétrie est-ouest, on la voit bien ici, puisque à part la petite ville, donc là on a Ambérieu-en-Bugey, la petite ville de Belley, mais qui est dans un environnement finalement très, très rural, hein, sur le Bugey, on va se retrouver après avec tout un ensemble extrêmement rural ici, et des éléments aussi ruraux dans la Bresse, notamment au nord, même si on a une influence périurbaine, et aussi dans cette zone intermédiaire, voilà, de Châtillon-sur-Chalaronne. Alors, j'ai remis ici parce que, en fait, je m'en suis servi longtemps, beaucoup dans l'étude, c'est qu'en fait, j'ai extrapolé la typologie communale du zonage en aire urbain à l'échelle au niveau cantonal. C'est-à-dire que j'ai considéré que quand la population, quand je faisais le total de la population des communes du canton était majoritairement population de pôle urbain, c'est devenu un canton urbain. C'était majorité ou majorité ou le pourcentage le plus important. Il se trouve que ça a toujours été assez net pour dégager une majorité de population. Par exemple, si on prend le canton de Chalamont, ici, qui est intermédiaire donc entre vraiment l'agglomération lyonnaise et l'agglomération de Bourg-en-Bresse, c'est un canton périurbain parce que le total de la population des communes du canton est majoritairement une population périurbaine, etc. Donc canton de pôle rural, canton rural avec pôle rural et canton rural tout seul. Voilà. Nantua étant considéré dans le zonage comme un pôle rural, alors que Belley est considéré comme un pôle urbain. Franchement, quand on va sur le terrain, où on met maintenant, on pourrait mettre Nantua en urbain et par contre placer Belley en rural, en pôle rural, ou mettre les deux en pôle rural. Voilà, bon, ça c'est les éléments du zonage de la population avec quand même une forte proportion. Donc, voilà, les pôles urbains et communes monopolarisées, on est quasiment, on est à 70% de la population. Alors, des éléments tout simple, je dirais qu'ils sont des éléments accessibles en ligne aujourd'hui sur le site de l'INSEE, certes qui date de 2007, que j'ai repris en premier pour un peu présenter aux membres du comité de pilotage des éléments sur la pauvreté. Donc on est dans un département globalement peu touché, puisqu'on a un taux de pauvreté à 10,3%, donc ça veut dire que 10,3% des ménages au sens des ménages fiscaux, donc de l'impôt sur le déclaré aux impôts, sont en dessous du taux de pauvreté à 60% du revenu médian national. Donc là, on est à 10,3, vous voyez, par rapport à la moyenne nationale, 13,4. On est largement inférieur dans une région qui, elle-même, est en position inférieure à la moyenne nationale. Par contre, on a en 2007, donc avant la crise économique, il n'y a pas de données disponibles depuis, c'est pas encore accessible, une intensité de la pauvreté de 18,3%. L'intensité de la pauvreté, c'est l'écart entre les populations pauvres et le seuil de pauvreté. Ça mesure l'écart entre les populations pauvres et donc ce seuil de 970 euros. Donc ça veut dire que quand on est pauvre dans l'Ain, on est très pauvre. Il y a moins de pauvres qu'il y en a en France, mais quand on est pauvre, on est très pauvre, ce qui est corrélé avec un niveau de vie médian des personnes sous le seuil de pauvreté, qui est de 9 800 euros, donc niveau de vie annuel, qui est particulièrement bas, bon, qui est dans la moyenne nationale, mais qui est faible et qui est notamment l'un des plus faibles de la région, puisque si on compare avec l'Ardèche, par exemple, qui est plus rurale, on a un niveau de vie médian qui est légèrement supérieur. Donc déjà, des éléments importants. Si on regarde un peu le taux de pauvreté selon le zonage en aire urbaine, et ben là aussi, on se rend compte que finalement, je disais, la pauvreté en milieu rural, elle est peu étudiée, mais on va trouver des effets de concentration. Ça vaut pour l'Ain et ça vaut pour les départements rhône-alpins, mais ça vaut pour nombre de départements français. C'est-à-dire que finalement, le taux de pauvreté le plus important, que ce soit en France, en Rhône-Alpes, dans l'Ain, est enregistré dans les communes pôles ruraux, enfin de pôles ruraux. Donc des effets de concentration de la pauvreté sur les communes de ce type, que l'on peut comparer avec la concentration de la pauvreté dans les pôles urbains, au niveau des taux. Par contre, une pauvreté relativement limitée, statistiquement parlant, dans les communes périurbaines. Bon, les couronnes du pôle rural, on va les oublier parce qu'il y en a très peu dans l'Ain, en fait. Voilà. Donc c'était vraiment intéressant de montrer aussi que finalement, il y avait une pauvreté qui était concentrée dans les pôles ruraux. Moi, l'étude, je l'ai faite sur l'ensemble des pôles ruraux, donc l'ensemble du département, j'essaie de vous extraire des éléments plus ruraux. Plus sur le rural. J'ai fait toute une batterie de cartes, en fait, et j'en ai choisi certaines ici pour essayer de voir un peu comment était spatialisée la pauvreté à partir d'indicateurs, donc un travail d'analyse spatiale, d'indicateurs de la caisse d'allocation familiale, qui prenait à la fois des éléments des minima sociaux et des éléments des revenus déclarés à la CAF, puisque c'est quand même un très bon indicateur statistique, la CAF, pour ces questions-là. Donc finalement, on se rend compte que, et en mettant toujours, en superposant toujours les valeurs absolues et les valeurs relatives, voilà. Pour dire ben, finalement, il y a peut-être peu d'effectifs, il y a peu d'individus, et ça se voit notamment ici sur le Bugey, là c'est le canton de Saint-Rambert en Bugey, à côté on est dans le canton de le Val-Romé, hein, on en parlait ce midi, Champagne en Val-Romé, donc on est sur des cantons où il y a peu d'effectifs de population couverte par un minima social. En 2009, c'est RSA et allocation adulte handicapé, essentiellement, les minima sociaux versés par la CAF, mais par contre, avec des taux de concentration qui sont les mêmes que ceux qu'on va trouver à Bourg-en-Bresse ou à Oyonnax. largement supérieur à la moyenne de l'Ain, puisque là, on est dans la classe 7,5-10%, alors que la moyenne de l'Ain est à 4,2% de population de moins de 65 ans couverte par un minima social. J'ai pris la population couverte. La population couverte, c'est l'ensemble de la population du ménage. C'est-à-dire que si vous avez une mère isolée avec deux enfants, c'est trois personnes. Voilà. Donc c'est pas uniquement ni la locataire ni le bénéficiaire, c'est vraiment la population le plus large pour voir un peu la réalité de la population concernée. Donc de faibles effectifs, mais de fortes proportions relatives. Quand on regarde un autre indicateur ici, c'est le taux de précarité de la population, c'est le terme de la CAF, hein, le taux de précarité de la population allocataire, c'est-à-dire que là, ce qui change, en fait, c'est le dénominateur. On prend le même numérateur, c'est la population couverte par un minima social, mais cette fois-ci, on prend l'ensemble de la population couverte par la CAF. Et là, finalement, on a quelque part une minoration. Donc, on a des effectifs moins importants, ça, c'est normal. Mais on a aussi... on a des taux. Les discrétisations ne sont pas les mêmes. On a une impression que le rural est moins présent, mais c'est aussi parce qu'en fait, on est sur la population totale couverte par la CAF. Donc, quand on est dans des cantons qui sont plus vieillissants ou avec des ménages plus petits, que ceux qu'on peut avoir notamment dans le périurbain, eh ben on a un effet un petit peu moindre. Par contre, au niveau de l'évolution du taux de couverture, c'est sûr que si on cherche les cantons ruraux, donc les cantons qui sont en vert sur la carte en bas à droite, eh ben on les repère plus. Ils sont quasiment invisibles, les cantons ruraux. Là où ça augmente, entre 2001 et 2009, c'était les deux dates butoirs que j'avais pris, une décennie, eh ben c'est à Oyonnax. Voilà. Alors là, 2009, c'était les dernières données disponibles, donc avec un taux de couverture des minima sociaux qui explose comme nombre d'indicateurs. Par contre, les espaces ruraux du Bugey, même Saint-Rambert-en-Bugey, augmentent très faiblement et dans la première classe. Voilà. Par contre, des espaces, alors des cantons urbains, mais qui sont en position périurbaine, donc si on considère le rural dans une approche large en prenant en compte ce que font nos collègues sur le périurbain, enfin si on dit, eh ben on se rend compte que finalement dans des espaces périurbains d'une ville moyenne, donc ces deux cantons par exemple périurbain de Bourg-en-Bresse ou aussi dans l'aire de périurbanisation de l'agglomération lyonnaise, là on va avoir des taux de croissance importants. Autre alors un élément marquant qui est pas spécifique pour l'Ain, parce que je l'avais déjà étudié au niveau de l'ensemble de la France pour les départements, c'est que finalement, c'est pas tant le RMI, enfin le RSA aujourd'hui, qui va jouer pour étudier la pauvreté au sens de pauvreté des minima sociaux, que l'allocation adulte handicapé. On est en milieu rural, l'allocation, le marqueur de la précarité dans les minima sociaux, c'est l'allocation adulte handicapé. Alors, concrètement, qui ça touche, l'allocation adulte handicapé? Ça va toucher, certes, des personnes ayant des handicaps, je dirais, de naissance, des handicaps mentaux de naissance, des handicaps physiques de naissance, mais ça touche aussi, sans qu'on puisse vraiment en faire la mesure et encore moins le spatialiser de façon fine, des populations ayant travaillé dans des métiers difficiles, donc les métiers agricoles, des salariés d'industrie, qui ont des invalidités au travail. Donc on va trouver dans ce public de l'adulte handicapé en milieu rural beaucoup de publics qui ont travaillé éventuellement comme salariés d'industrie. Et c'est un marqueur important, hein, on le retrouve ici notamment. Même si c'est à Bourg-en-Bresse qu'on va trouver la majorité en effectif des adultes handicapés, c'est un très bon marqueur de la pauvreté en milieu rural. Par contre, vous avez en dessous la carte du RSA socle, donc on n'est pas dans le RSA activité. Le RSA socle, c'est pour les populations qui étaient autrefois, jusqu'en mai 2009 au RMI ou à l'allocation parents isolés. Là, sur le RMI dans l'Ain, à part sur le canton de Saint-Rambert-en-Bugey, qui est un canton rural industriel en crise depuis quasiment un siècle, mais au moins bien 30 ans, eh ben, c'est un marqueur beaucoup moins important si on regarde cette zone du Belay. Par contre, on va le retrouver notamment sur Oyonnax et sur le Pays de Gex. Quant aux bénéficiaires du minimum vieillesse, dont on pourrait s'attendre dans l'Ain, on pourrait s'attendre à ce qu'ils marquent les espaces ruraux, ben, on se rend compte que dans l'Ain, finalement, l'allocation des bénéficiaires du minima social est plus un marqueur d'espace urbain, donc toujours Bourg-en-Bresse et Oyonnax, et ici bon, le canton d'Isère Nord, et avec une très faible importance sur les espaces ruraux, donc notamment cette zone du Bugey. Là, c'est tout régime, hein, c'est MSA, enfin il y a aussi les bénéficiaires de la MSA et de la caisse d'allocation familiale. En ayant fait des enquêtes un peu pour savoir pourquoi il y avait si peu de personnes, on en a ressorti qu'éventuellement il pouvait y avoir un phénomène de non-recours assez important, donc des personnes qui pourraient être susceptibles de toucher le minimum vieillesse et qui ne recourent pas au dispositif. On rentre dans tous les questionnements sur le non-recours. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ne recourent pas? Soit parce qu'elles ne veulent, soit parce qu'elles n'ont pas l'information. Donc, si elles n'ont pas l'information, c'est parce qu'éventuellement, il n'y a pas les structures d'encadrement, d'accompagnement social pour leur diffuser. Ou alors, parce que maintenant, on fait des dossiers électroniques et que c'est difficile éventuellement pour une personne âgée de suivre son dossier électronique par Internet. Ou par choix de ne pas vouloir recourir. Mais c'est un autre débat. L'intérêt de l'indicateur bas revenu de la CAF, c'est par rapport aux impôts, c'est que dans les revenus qu'on déclare à la CAF, tout est intégré, c'est-à-dire que les minima sociaux sont intégrés, les aides au logement sont intégrées, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans les revenus déclarés aux impôts, puisque dans les revenus déclarés aux impôts, on ne déclare pas, le RSA, par exemple, n'est pas déclaré, les minima sociaux ne sont pas déclarés et pas les aides au logement. Donc là, le taux de couverture des bas revenus, donc la population à bas revenus sur la population totale de moins de 65 ans, qui est la population de référence pour la CAF. Le rural, certes, apparaît de façon homogène, mais n'est pas particulièrement marqué, à part le fameux canton en crise de Saint-Rambert-en-Bugey. Par contre, quand on prend l'indicateur de la dépendance des allocataires aux prestations de la CAF, c'est-à-dire les allocataires pour lesquels les allocations CAF, tout logement, familial, minima sociaux, représentent de 80 à 100% des ressources déclarées. Donc c'est des gens dont les revenus sont au 4/5 jusqu'à la totalité composés d'allocations, ce qui est quand même parlant. Par rapport à la population de référence de la CAF, là, pour le coup, même si on retrouve Bourg-en-Bresse et Oyonnax, on a les taux maximum, donc vous voyez, entre 15 et 20% de la population qui va se retrouver dans cette situation d'avoir 80 à 100% de ses ressources déclarées qui dépendent des allocations, dans une moyenne nationale de 11,8, ce qui est quand même important. J'ai beaucoup parlé du rural, j'allais dire classique, hein, donc du Bugey. Si on étend un peu le rural à une image en fait périurbaine, ben on se rend compte finalement qu'un des marqueurs de la précarité dans les espaces périurbains, qu'on va retrouver notamment autour de Bourg-en-Bresse, mais aussi dans cette zone qui est intermédiaire entre le périurbain de Bourg-en-Bresse et le périurbain de Mâcon, et ben ce qui va marquer, c'est les familles monoparentales. Donc là, sur la carte de gauche, on a les familles monoparentales allocataires de minima sociaux. Aussi certains cantons de la Dombes, par exemple, aux limites de la Dombes, les cantons aux limites de l'aire d'influence lyonnaise. Et puis là, c'est les familles monoparentales allocataires de la CAF à bas revenus, donc elles n'ont pas forcément un minima social, mais elles sont dans des indicateurs donc de bas revenus. Et là aussi, on va trouver des éléments très marquants sur le périurbain. Ici, on est sur la plaine de l'Ain, donc on est face à un autre type d'espace rural, l'espace rural périurbain, et un autre type de public qui est celui des familles monoparentales. Une carte de typologie, donc ça a été aussi très, très apprécié, parce qu'il n'y a pas au Conseil général ni à la CAF de personnel pour établir ces documents-là. Et puis en plus, en reprenant en fait l'intérêt aussi, c'était de pouvoir croiser des données qui étaient des données venant issues de différentes sources. Donc des données du taux de chômage, catégorie A. Donc on ne peut plus comparer avec les changements de catégorie, hein, puisqu'on a changé les catégories du chômage. Le pourcentage de logements sociaux, le taux de chômage, les fameuses les allocataires à 80 à 100% des ressources, un indice de Gini, aussi un indicateur d'inégalité, tout un tas de données de la CAF que je vous ai déjà présentées, les chômeurs de moins de 25 ans, les chômeurs de longue durée, donc personnes couvertes par le RSA, le taux de résidence construite avant 1949, c'était un indicateur, un peu pour cerner le rural, éventuellement la précarité énergétique, un ratio démographique moins de 15 ans, plus de 65 ans, les ménages fiscaux imposés, pour donner quelques éléments, et la part des revenus salariaux dans les revenus fiscaux imposés. Qu'en ressort-il? Pour ce qui nous intéresse, on voit bien apparaître la précarité rurale. En fait, et j'ai mis l'arbre de classification, et en fait, on a trois... donc la précarité urbaine intense, la précarité élevée des petites villes et la précarité rurale qui vont ensemble, hein, qui bon, se divisent après dans la classification, avec finalement des indicateurs qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on va trouver dans la précarité urbaine intense les taux de vous avez là l'écart au profil moyen départemental, donc des indicateurs très sensibles qui vont l'être moins, mais qui sont toujours marqués pour la précarité élevée des petites villes. Donc, petite ville, c'est Amberieu-en-Bugey, c'est Nantua, par exemple, qu'on va retrouver de façon plus marquée pour la précarité rurale, avec un marqueur qui est très important pour la précarité rurale, qui est celui du pourcentage des allocataires à l'allocation adulte handicapé, par exemple. Le taux de résidence construite avant 1949 aussi. Et puis, des indicateurs, je vous ai dit, hein, je vous ai montré tout à l'heure, l'allocation 80 à 100% des ressources, enfin les allocations, 80 à 100% des ressources des allocations, peu finalement, l'indicateur du chômage est peu explicatif, mais par contre, les indicateurs de précarité de la CAF sont assez nombreux, y compris le taux d'allocataires des minima sociaux, finalement, dans le rural. Par contre, le pourcentage des logements sociaux, lui, est largement inférieur à la moyenne. Autre élément important, ça sort du rural, c'est l'isolement comme une classe en soi du pays de Gex. Alors, avec une limite statistique, on va dire, sur où les travailleurs transfrontaliers déclarent-ils leurs revenus. Donc ça, c'est un biais statistique très important, puisque quand on travaille en Suisse, on est prélevé à la source. Donc que déclarent-ils aux impôts en France? Ça biaise les revenus déclarés en France et ça biaise l'indicateur de Gini. Mais quoi qu'il en soit, et en allant faire des enquêtes de terrain sur le pays de Gex et aussi tout un tas d'enquêtes, on est là en fait face à un territoire qui est largement marqué par l'inégalité. C'est-à-dire que c'est un territoire très riche d'un côté, mais aussi très inégal. Et qui est l'arrière-cour résidentiel des fonctionnaires internationaux de Genève. Et, notamment où j'ai entendu un professeur peut pas travailler, peut pas vivre à Gex. Voilà. Un professeur, un enseignant sortant de l'IUFM ou feu l'IUFM peut pas avoir le train de vie pour s'insérer dans la société, dans le pays de Gex. Deuxième élément, en 5 minutes. Quand les maires s'expriment sur la pauvreté, donc je vous ai remis les objectifs de cette enquête par questionnaire. Dès le départ, ils ont voulu, le commanditaire a voulu faire une enquête par questionnaire auprès des 419 maires de l'Ain. En partie pour les sensibiliser. Enfin, l'objectif premier, c'était celui que j'ai mis en dernier et qu'on a mis de sensibiliser les maires. Donc voilà, on vous envoie une enquête par questionnaire pour dire il y a de la pauvreté. Donc je ne vais pas détailler tous les tableaux, bien entendu, en 5 minutes, 36% de réponses, un taux de retour de 36%, questionnaire envoyé par courrier, sans relance téléphonique, donc un plutôt bon taux de retour, travail fait avec un étudiant stagiaire de M1 Pro Statistique de Lyon 2. Bon, une bonne couverture spatiale, avec quand même quelques cantons, alors notamment celui-là, parce que l'objectif c'était que au moins une commune de chaque canton réponde. On avait et sinon on relançait. Et puis la ventilation par zonage en aire urbaine, la ventilation par taille de commune. Donc grosso modo un bon taux de couverture. Par contre finalement des chefs-lieux de canton qui ont été pour certains peu nombreux à répondre. Et vous voyez donc il existe des situations de pauvreté. Hein, majoritairement toutes les tailles de communes répondent qu'il en existe. Après intéressant pour notre étude la pauvreté et la précarité dans les espaces ruraux. Quelles sont les personnes particulièrement concernées? Donc sur 151 communes à avoir répondu, on se rend compte que finalement, donc jeunes adultes, couples avec enfants, familles monoparentales, personnes âgées, populations étrangères, autres, il y a toujours des réponses autres et les non renseignés. Ceux qui reviennent le plus souvent sont les familles monoparentales, 46%. Par contre, la catégorie la mieux représentée, toutes catégories confondues, c'est la catégorie personnes âgées. Et on se rend compte que plus la taille de la commune augmente, ça vaut aussi pour le zonage en aire urbaine, hein, si on fait une hiérarchie dans le zonage en aire urbaine, plus les publics ont tendance à se diversifier. Vous voyez, là, de 500 à 2000 habitants, on rajoute les couples avec enfants. Ensuite, les jeunes adultes. Bon, là, il y avait peu d'effectifs. Et puis, quand on va être sur les communes de 10 000 habitants à plus, donc il y en a 3 sur les 4 qui nous ont répondu, toutes les communes répondent les populations étrangères, par exemple, alors que c'était un public qui n'était quasiment pas abordé avant. Ce qu'on retrouve dans ces questions, et je vais en présenter quelques-unes, à chaque fois, c'est un taux de non-réponse assez important, en fait, des très petites communes de moins de 500 habitants. Les difficultés qui caractérisent le plus les situations de pauvreté. Alors, toute catégorie de communes confondues, on va trouver la perte et la difficulté d'emploi, donc une raison économique, avec vraiment, je vous ai dit, un choc pour ce département lié à la crise économique subie depuis 2 ans. Si on regarde un peu ce qui pourrait caractériser les plus petites communes, alors excusez-moi, c'est pas que je dis que le rural, c'est les communes à moins de 2000 habitants, hein, c'est pas ça. On pourra aller plus dans le détail et regarder le zonage en aire urbaine. C'est plutôt pour vous donner quelques éléments. On se rend compte qu'en fait, les petites communes, et c'est aussi les communes rurales au sens du zonage en aire urbaine, considèrent que c'est plus le pouvoir d'achat et le manque de ressources qui va jouer, en liaison aussi avec les populations âgées, par exemple, et le fait qu'on va trouver moins de populations en activité. Alors, sur la pauvreté cachée. Pensez-vous qu'il existe des situations de pauvreté cachées sur votre commune, outre le fait qu'un maire, quand on a dit « et quelles pourraient être ces populations ?» a répondu « si elles sont cachées, je ne peux pas savoir lesquelles elles sont ». On se rend compte que finalement, les communes, c'est assez intéressant, les communes qui répondent le plus dans leur tranche, ce sont les communes des gros bourgs et petites villes, qui reconnaissent qu'il existe des situations de pauvreté cachées. Par contre, avant, c'est ou carrément non. Non, il n'y en a pas. Pour les toutes petites communes, ou ne savent pas. Donc, on a une différenciation assez bien marquée. Et puis, sur le rôle du maire, en 2 minutes, le rôle du maire de la mairie, on avait posé une question: vers quelle structure orientez-vous les personnes en situation de pauvreté qui se présentent à la mairie ? Je passe, parce qu'il y a eu une partie d'analyse qualitative des réponses. Ils avaient aussi la possibilité de s'exprimer. Là, c'était une question ouverte. J'ai oublié. Hein, c'était pas listé. On avait fait exprès de faire une question ouverte. Donc, on a eu plein de réponses. Outre tous les maires qui disent « mais personne ne se présente à la mairie ». Donc ça, c'est un élément important sur le rôle que nous, chercheurs, on va donner éventuellement au maire, à l'élu. Et puis, pratiquement, ils y vont pas, notamment dans les petites communes, pour pas se faire reconnaître. Ils préfèrent aller au conseil général. Mais de fait, quand ils vont à la mairie, quand ils se présentent à la mairie, le maire, le personnel de mairie, les adjoints, les réorientent vers ce qu'on a appelé les services sociaux des départements. Et quand on regarde les réponses qui étaient mises par les élus, c'était Maison départementale de la solidarité, donc les structures de l'action sociale territoriale, et encore plus, le terme employé, c'était assistante sociale du Conseil général. C'est « j'envoie à une personne ». Voilà. Et deuxième réponse, les associations caritatives, les maillages de l'action sociale. En fait, on a une assez bonne couverture, mais comme je disais, hein, c'est un filet. Donc pour le Conseil général, du moment qu'ils ont découpé leur territoire, c'est bon, ils sont présents. Et on se rend compte aussi, finalement, c'est, ça je l'ai eu par les Restos du Cœur, alors, parce qu'ils tiennent des statistiques assez fines. En fait, c'est les aires de distribution alimentaire des Restos du Cœur dans l'Ain, où on voit finalement qu'il y a une assez bonne distribution. Et si on regarde sur Belay, hein, un espace assez bien couvert. Alors, citez les principales actions mises en place dans votre commune. Donc, ce n'était pas les actions de la mairie, c'était qu'est-ce qui se fait dans votre commune. On se rend compte pour les plus petites communes, et on le retrouverait pour les pôles de l'espace rural et les autres communes rurales, c'est que finalement, c'est avant tout de l'aide financière et de l'aide à l'alimentation, donc des bons alimentaires, ou de la distribution directe qui se fait, ou de l'aide à la cantine, beaucoup, et le soutien aux familles. Quand je dis soutien aux familles, y compris dans les petites communes, c'est du périscolaire et du centre de loisirs sans hébergement. Et pour finir, voilà, je finirai sur celle-là, sur les compétences du CCAS en matière d'action sociale. Et ben, on se rend compte que finalement, bon, c'est sûrement pas une découverte, mais là, au moins, on pourra le montrer aux élus de l'Ain, c'est qu'on a des compétences très hétérogènes selon la taille des communes. Hein. Chaque commune a un CCAS, c'est une obligation légale. Par contre, pour les toutes petites communes, ce qui est mis accompagnement de personnes âgées et dépendances, majoritairement, hein, c'est... avec, derrière personnes âgées et dépendances, bah, le repas de Noël, point. Voilà. Ou le colis, le filet garni. Et en fait, on se rend compte que plus on monte en hiérarchie, bah, plus on va avoir en fait des compétences élargies. Avec, et je conclurai là-dessus, peu importe, c'est même pas la peine de montrer le tableau, une très faible implication du niveau intercommunal. C'est-à-dire que toutes ces communes sont dans des intercommunalités qui ont des compétences d'action sociale, la compétence d'action sociale étant l'aide à l'enfance, essentiellement. Mais quand on leur demande, par exemple, les niveaux qui pourraient être sollicités, il y a très peu de retours sur l'intercommunalité. Et quand on parle d'action sociale intercommunale, c'est l'action petite enfance. Merci beaucoup.